Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h pile. Voici le journal sur Radio Kapi. Au lendemain de la prestation de serment des trois juges de la Cour constitutionnelle, le président Félix Tshisekedi Tshilombo s'adresse à la nation ce vendredi. Du coup, le conseil des ministres prévu demain vendredi est reporté à une date ultérieure. 9 morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan des affrontements survenus hier mercredi entre les FARDC et la milice de la Force patriotique et intégrationniste du Congo à Irumu Centre. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Notre invité, c'est le chef des divisions provinciales de la Régie des Eaux Kassai Oriental, Lomami et Sangourou. Joseph Fataki parle de l'amélioration de la desserte en eau potable en Boujimaï après la réception d'une importante quantité de carburant. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. Le chef de l'État s'adresse à la nation demain vendredi. L'information est contenue dans un communiqué qui porte la signature du directeur de cabinet à d'intérim du président de la République. Cette adresse interviendra 48 heures après la cérémonie de prestation des serments des trois juges de la Cour constitutionnelle nouvellement nommés. Si rien n'a filtré jusqu'ici sur les contenus de ce message, on apprend du même communiqué que la 54e réunion du Conseil des ministres prévue demain vendredi est reportée à une date ultérieure. Par ailleurs, dans une note d'information à la presse, la maison civile du chef de l'État congolais fait savoir qu'une feuille de route trimestrielle des actions à mener a été adoptée par la nouvelle équipe dirigeante nommée le 18 octobre. Des détails avec vous, Cynthia Bachizi.
Selon cette note d'information, après avoir reçu leur notification écrite respective du directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État, la nouvelle équipe dirigeante de la maison civile du président de la République, composée du docteur Bruno Miteyo Nyenge et ses trois adjoints, s'est réunie pour arrêter les actions clés à réaliser durant les trois premiers mois de leur mandat, soit d'octobre à fin décembre 2020. Les actions prioritaires à mener ont été identifiées et une feuille de route conséquente a été établie dans la perspective de doter la maison civile du chef de l'État d'une planification stratégique pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2023. Ces actions s'inscrivent, selon la même source, dans la ligne droite de ce qu'a été l'œuvre de feu Mgr Gérard Moulumba qui a occupé ce poste précédemment. D'autres objectifs préliminaires à cette planification stratégique sont notamment l'amélioration des conditions de travail et des relations interpersonnelles pour un vivre ensemble harmonieux et efficace en vue de l'obtention des résultats escomptés, l'établissement des états des lieux de la maison civile ainsi que la promotion d'un partenariat stratégique avec tous les organismes et institutions publiques et privées, les bailleurs de fonds et ou les partenaires techniques et financiers.
Merci Cynthia Bachizi pour ces précisions. La plénière d'hier mercredi à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu ne s'est pas tenue normalement. Un groupe de députés provinciaux a d'abord préféré voir clair sur les principales matières qui sont prévues au calendrier de cette session de septembre avant de pouvoir passer à l'ordre du jour. Un ordre du jour qui prévoyait à Bukavu la validation du mandat d'un suppléant qui doit remplacer le titulaire décédé, mais aussi l'interpellation du directeur provincial de la Régie des Eaux Sud-Kivu sur la hausse des factures d'eau potable consommées par les abonnés. À Bukavu, c'est une correspondance de Michel Thirimoy-Milouanois.
La plénière de ce mercredi a été menée dans un sens que beaucoup de députés n'ont pas aimé. Des heures durant une séance en train de porter sur une motion incidentielle que l'on n'a pas su faire aboutir nonobstant le règlement d'ordre intérieur. La motion introduite par un député provincial n'a pas connu l'issue attendue malgré le temps qu'on y a consacré. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale reconnaît que la séance a fini par être suspendue et alors que les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas été abordés. Jacques Amani Kamanda rappelle la spécificité de cette session qui ne doit pas oublier les autres aspects de la vie quotidienne.
Parce que certains députés ont soulevé d'autres matières qui devaient figurer sur le calendrier, pourtant déjà adoptées depuis la plénière du 13 octobre, et parce qu'ils ont insisté jusqu'à faire inutilement le temps, nous avons été obligés essayer de suspendre la séance, mais il faut aussi rappeler que la session de septembre, c'est une session budgétaire. Bien que nous devons travailler sur le budget, nous devons aussi travailler sur certaines questions qui touchent la vie quotidienne de la population, mais aussi les urgences dans la province.
La session plénière a été clôturée par l'incompréhension, car déjà, certains députés préconisaient la suspension de la plénière ce mercredi. Bukavu, Michel Chirimami, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'Ituri où 9 personnes ont trouvé la mort lors des combats qui ont opposé hier mercredi les FARDC à la milice de la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo. C'était à Irumu Centre, localité située à environ 55 km au sud de Bunia. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, le bâtiment administratif du territoire et le bureau de la police nationale ont été également incendiés par les assaillants. Le trafic entre Bunia, Komanda et Beni a été aussi interrompu pendant presque toute la journée d'hier. À Bunia, Isaac Remoyope.
Parmi les personnes qui ont été tuées lors des combats, il y a un militaire et deux de leurs dépendants ainsi que deux policiers. 4 miliciens ont été également neutralisés. Selon des sources concordantes, les miliciens ont pris d'assaut mercredi matin les chefs-lieux du territoire d'Irumu. Les dégâts sont énormes, affirme le ministre provincial de l'Intérieur Adjio Guidi.
Il y a eu l'attaque des miliciens de FPIC contre les symboles de l'État congolais. Les bilans provisoires font état de l'incendie du bureau du territoire et de la police nationale congolaise. Les résidences ont été saccagées. 3 militaires et 2 policiers ainsi que 2 femmes de militaires et un enfant ont été tués.
Les militaires des FARDC ont été vite déployés pour déloger ces miliciens, indique le porte-parole de l'armée. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que la région est actuellement sous contrôle effectif des FARDC.
Dans des lieux isolés, nous cherchons à positionner toute circulation des militaires pour assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens.
Signalons que la circulation a repris timidement depuis ce jeudi sur les tronçons Bunia Komanda. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On reste en Ituri où une faction des miliciens de la Codeco s'est installée à Kilomoto, au quartier Sayo, dans la commune de Mongwalou, située à 80 km au nord de la ville de Bunia, en territoire de Djougou. Selon la société civile locale, ces rebelles y ont établi une administration parallèle où ils font payer des amendes aux justiciables et font même des patrouilles. Inquiets de la situation, les habitants fustigent l'indifférence des autorités. Le bourgmestre de la commune assure que des dispositions sont prises pour contraindre ces miliciens de la Codeco à regagner le site de regroupement. Un reportage d'Isaac Remoyope.
C'est depuis une semaine qu'un groupe de miliciens armés occupe une partie de la commune de Mongwalou. Sur place, ils ont établi leur tribunal pour juger certains dossiers, notamment d'abus de confiance et de conflits conjugaux. Ils ont érigé aussi des barrières où tous les passants sont obligés de débourser de l'argent dont ils se servent pour leur survie. Pendant la nuit, ces miliciens font des patrouilles dans la zone sous leur contrôle. Le président de la société civile dénonce la passivité des autorités pour démanteler ces groupes armés qui sèment la terreur dans la zone. Le bourgmestre de la commune rurale de Mongwalou confirme la présence des miliciens de la Codeco qui ont été délocalisés il y a environ un mois de cette zone. Jean-Pierre Bikilisende rassure la population que des dispositions sont déjà prises pour les obliger à regagner leur site de regroupement vers BC.
Ils sont en train de monter une administration parallèle, ils interpellent les gens, ils sont en train de torturer les gens, ils taxent des amendes, ils ont ouvert un bureau clandestin, ils organisent leur culte mystico-religieux. C'est la situation qui nous préoccupe ces derniers temps. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour les décourager définitivement.
De son côté, le porte-parole de l'armée, Annie Turi, demande aux différentes factions de la Codeco de respecter leur acte d'engagement. Il ajoute que les récalcitrants seront traqués par l'armée. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, 25 présumés criminels ont été arrêtés par les FARDC hier mercredi au quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. Parmi eux, 2 sont reconnus comme de présumés kidnappeurs selon des sources militaires. Appréhendés hier avec 2 grenades, des armes blanches et des gris-gris, ces présumés bandits sont actuellement détenus dans un cachot des FARDC à Goma. Le porte-parole de la 34e région militaire qui présente ces bandits comme des miliciens Maïmaï précise que ces arrestations sont opérées par les FARDC en réponse à une alerte sécuritaire. Le major Njike Kaiko a été joint par Bernard Denyangi.
C'est une opération organisée pour mettre la main sur ces anciens éléments du groupe armé Mai Mai Mazembe, en provenance de Tibirizi, Kanyabayonga et Kirumba, et projeter une attaque sur la ville de Goma. Alors, il s'agit d'une opération planifiée par le service de renseignement de la 34e région militaire, qui, grâce à son efficacité, compris aussi la collaboration avec notre population de Mugunga, qui en a marre de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, tout ça mis ensemble, qui nous a permis de mettre la main sur ces 25 éléments. Déjà, au regard des équipements dont ils étaient en possession, notamment des grenades, des machettes, ils seront déférés devant une juridiction compétente pour qu'ils puissent répondre de leurs actes.
Autre nouvelle en plus bref, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge des opérations et de la protection en RDC vient d'arriver il y a quelques minutes à Kilia, une localité du secteur de Rwenzori, un territoire de Beni au Nord Kivu. Sur place, David Grisly, qui est accompagné d'une délégation de la représentation britannique et française, va s'entretenir avec les autorités locales et la société civile sur la situation qui prévaut dans cette zone touchée ces derniers jours par les attaques des rebelles ougandais de l'ADF. Avant l'arrivée à Kilia, David Grisly et sa délégation ont visité le pont Hululu situé sur la route Beni-Kassindi. Ce pont qui est construit par le génie de la MONUSCO en partenariat avec le gouvernement congolais et la FEC et qui ouvre la voie à l'Ouganda, s'était effondré il y a 5 mois suite aux pluies diluviennes dans la région. Justice à présent. La Société congolaise pour l'état de droit salue la reprise du procès de présumés meurtriers de 2 experts des Nations Unies tués au Kasaï en 2017. Son directeur général dit attendre de ce procès qu'il établisse les circonstances de la mort des Aïda Catalane et Michael Sharp. Maître Dominique Kabamba demande par conséquent au juge d'adopter une méthode de travail qui permettra à ce qu'on aboutisse rapidement au dénouement de cette procédure. Il est au micro de Joël Bofengo.
Ce procès, il est entendu, compris dans le sens de la lutte contre l'impunité. C'est au fait, au fond, ce que nous nous saluons. Parce qu'à travers ce procès, il y aura la vérité, on va établir les responsabilités et ça participe de la lutte contre l'impunité. Nous attendons de ce procès d'abord la vérité. Un passé aussi lourd ne peut pas s'oublier. Il faut établir la vérité. Qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il y a eu. Les 2 experts ont perdu leurs âmes. Dans quel contexte? Dans quelles circonstances? Je demande à la composition de pouvoir mettre en place une méthodologie de travail, d'instruction, qui tienne en compte des principes de procès équitable, notamment le délai raisonnable. Il est inadmissible qu'un procès comme celui-là, débuté depuis le 5 juin 2017, qu'il continue aujourd'hui, on va totaliser 4 ans jour pour jour. Les principes d'un procès équitable exigent que dans un délai raisonnable, les prévenus puissent être fixés sur leur sort.
L'ambassadeur américain a également salué la reprise de ce procès suspendu depuis le mois de mars à la suite de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Mike Hammer a fait savoir sur son compte Twitter que les États-Unis d'Amérique apprécient l'engagement continu de la RDC à faire en sorte que les auteurs de ces meurtres soient tenus responsables. En ville de Butembo, les chefs de division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Nord Kivu 2 appellent les enseignants nouvelles unités à se méfier du mouvement de grève qui a été lancé lundi dernier par le CIECO. Appel lancé dans une interview accordée à Radio Kapi. Adaku Dawa affirme que la paix des nouvelles unités doit les retrouver à l'école et non dans la rue. Il met en garde les syndicalistes qui ont perturbé le bon déroulement des cours dans des écoles ces jours-ci. Il est au micro d'Alicia Kapisa.
Aujourd'hui, les payés n'ont pas encore reçu leur salaire parce qu'on doit attendre la promesse que le gouvernement a donnée. Il serait intéressant si ils avaient consulté le service concerné de la paye, le CECOP par exemple, aller demander est-ce que les listings sont déjà venus, est-ce qu'on a déjà intégré les NU. Moi, je crois à ce moment-là, ils pourraient dire quelque chose. Mais on anticipe faire ce que le gouvernement a promis, alors que nous ne sommes pas aussi à la fin du mois. Voilà une contradiction. Qui s'est dit syndicaliste, c'est quelqu'un censé connaître la loi. Dans la loi syndicale, vous ne pouvez jamais trouver que une école qui continue à étudier, alors nous, syndicalistes, nous allons le faire partir par force. Ça n'existe pas. Ce sont des perturbateurs. Heureusement, nous avons déjà alerté tous les services de l'État. Et chacun va courir. Dès qu'on l'arrête, il va courir parce que ça, il perturbe l'ordre. Aux enseignants NU, la paye doit les trouver à l'école.
Actualité internationale.
En Thaïlande, l'état d'urgence renforcé qui interdisait depuis quelques jours tout rassemblement politique de plus de 4 personnes à Bangkok a été levé ce jeudi matin par le Premier ministre, alors que cette mesure gouvernementale n'a pas réussi à briser totalement le mouvement pro-démocratie dans la rue. Le chef du gouvernement Prayut Chan-o-cha affirme que cette disposition gouvernementale a été imposée au lendemain des incidents contre le cortège de la reine Soutiga lorsque des activistes pro-démocratie avaient levé 3 doigts devant sa voiture en signe de défi. Au lendemain de l'hommage national au professeur assassiné et de la mise en examen de 7 personnes par un juge antiterroriste, le ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lance ce jeudi un Grenelle de l'éducation censé mettre les professeurs français au centre de la société. Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire et géographie, a été décapité par un islamiste le 16 octobre près du collège à Conflans Sainte Honorine, 10 jours seulement après avoir montré à ses élèves de 4e des caricatures de Mahomet pendant le cours sur la liberté d'expression.
L'invité.
La régie des eaux Kasaï Orientale a depuis quelques jours amélioré la desserte en eau potable sur la ville de Mbujimayi. Son chef de division provinciale justifie cette amélioration de la desserte en eau potable par le fait que cette entreprise a réceptionné une importante quantité de carburant, ce qui les rend de plus en plus autonomes dans la fourniture de l'eau potable à la population jusque tard dans la soirée. Pour parler de cette nouvelle, nous recevons aujourd'hui le chef de division provinciale de la régie des eaux au Kasaï Oriental, Lomami et Sankourou. Joseph Fataki s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Joseph Fataki. Vous êtes le chef de division provinciale de la régie des eaux dans son ancienne configuration, Lomami, Sankourou, Kasaï Oriental. Ces derniers temps, nous constatons que l'eau coule au robinet de la ville de Mbujimayi jusque autour de 19h, 20h. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication par rapport à cette amélioration dans la desserte en eau potable?
Oui, tout à fait. Si vous voyez l'eau couler jusqu'un peu tard par rapport aux heures habituelles, c'est tout simplement parce que la régie des eaux se prend en charge sur le point d'énergie électrique. C'est-à-dire, nous utilisons nos groupes électrogènes et nous gérons nous-mêmes notre fonctionnement. Donc, nous nous donnons une autonomie, nous fonctionnons avec nos groupes électrogènes. C'est nous-mêmes qui gérons et c'est nous-mêmes qui décidons quand est-ce que nous pouvons couper et tout, selon nos moyens. Et d'habitude, la société qui nous donne de l'énergie ne dépasse pas 16 heures. Il nous donne pendant 8 heures. S'il commence à 7 heures, il termine à 15 heures. S'il commence à 8 heures, il termine à 16 heures. Il ne dépasse jamais 8 heures. Mais comme nous avons un peu de gasoil qui nous permet de fonctionner, de nous prendre en charge nous-mêmes, nous pouvons aller à 10 heures, à 12 heures, ça dépend de nous-mêmes. Nous apprécions la journée et nous regardons nos abonnés qui ont reçu, qui ne reçoivent pas l'eau régulièrement. Nous pouvons encore forcer pour les atteindre.
D'où provient ce gasoil?
Non, le gasoil là, c'est un problème interne. Nous avions du gasoil qui traînait au Katanga, on cherchait l'exonération. Ça n'a pas été possible, mais bon, nous nous sommes arrangés avec nos équipes, avec nos partenaires pour finalement libérer ce gasoil. Un lot est arrivé, mais nous attendons un autre lot qui viendra incessamment.
Est-ce que nous pouvons savoir les quartiers que vous-même vous avez alignés pour desservir pendant ce moment que vous avez du gasoil?
Non, c'est-à-dire nous voulons servir tous les quartiers, mais nous faisons le maximum possible. Surtout, notre plus grand objectif, c'est atteindre Maréchal. Nous avons un réservoir que nous appelons R3 sur Maréchal. Si nous le remplissons, quand nous allons l'ouvrir, il peut arroser toute la basse ville et atteindre même l'aéroport, parce que l'aéroport ne reçoit. Mais je voudrais ici vous dire, ça fait 5 jours que la régie des eaux Mbujimayi ne reçoit plus du courant de l'entreprise qui nous donne. Tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils sont en panne armes sur l'une de leurs machines. Et ça fait 5 jours, la population n'a pas constaté le manque d'eau. C'est tout simplement parce que nous utilisons le gazol pour alimenter et desservir la population de Mbujimayi.
Et cette amélioration va prendre combien de temps?
Non, ça dépend du stock de gazol que nous avons. En tout cas, nous pouvons encore fonctionner pendant quelques jours encore, en attendant d'autres dispositifs et d'autres efforts que nous sommes en train de fournir. Nous avons un problème de ravitaillement. Nos routes ne sont pas bonnes, les camions de CEP ne savent pas atteindre tout le coin. Nous avons une station à Lukelenge, nous avons une station à Bakwakapanga. Les camions de CEP ne savent pas atteindre Lukelenge. Nous allons poser le problème à l'exécutif. S'il est d'accord de nous prêter main forte, nous pouvons aménager là-bas et voir dans quelle mesure ces camions-là peuvent atteindre. S'ils parviennent à atteindre, je vous garantis, jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons tenir.
Est-ce que cette amélioration va aussi bouger les factures de consommation d'eau potable?
Non, pas du tout, pas du tout. Jusque-là, nous n'avons pas pensé à cela. Nous consommons du gasoil, mais ça ne va rien impacter sur la tarification de l'eau. Non, pas du tout, pas du tout.
Merci beaucoup, monsieur le chef de division.
Merci beaucoup.
L'invité de Radio Okapi, c'était le chef des divisions provinciales de la Régie des Eaux au Kasaï Oriental, Lomami et Sankourou, Joseph Fataki, s'entretenait au téléphone avec Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 12h20. Infiniment merci à Élisée Chikota et Pelé Kipela Mondo qui m'ont accompagné.